Vous êtes sur RTL.
Et pile 7 heures.
RTL Matin, première édition, Stéphane Carpentier.
Et donc l'actualité de ce samedi, d'abord la joie des Algériens, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football hier soir. Ils attendaient cela depuis 29 ans, les Fennecs ont battu le Sénégal en finale de la CAN au Caire en Égypte. 1-0, un petit but marqué dès les premières secondes, qui a déclenché des scènes de liesse à Alger, bien sûr, mais aussi chez nous en France. Une marée humaine dans le centre de Marseille avec pétards et klaxon. Ils étaient au moins 25 000, des scènes de bonheur identiques à Lyon. Malgré quelques accrochages avec les forces de l'ordre au milieu des fumigènes. Victoire célébrée également à Metz, à Strasbourg, à Toulouse ou encore à Lille. Sans oublier Paris, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées noirs de monde sans incident majeur. Une dizaine d'individus seulement interpellés. La fête a duré toute la nuit et c'était bruyant. Vincent Serrano, vous les avez abandonnés, ces fans, tout à l'heure vers 3h30.
Le visage rougi par les dizaines de fumigènes craqués autour de lui. Khalid peine à trouver ses mots.
Franchement, c'est une émotion, elle est indescriptible. Ah, tu peux même pas dire, franchement, c'est un truc de ouf. Ça fait 29 ans qu'on l'attend. J'étais même pas né. On n'était pas favoris. Je suis très content. Vive l'Algérie. Et vive la France. Franchement, c'est une émotion.
Deux de ses amis viennent l'envelopper du drapeau algérien, celui du croissant et de l'étoile rouge. Le symbole d'une fierté qu'ils nouent autour de leur cou ou de leur taille.
On est né en France, on est d'origine, c'est extraordinaire. On se sent français, on se sent algérien.
Surtout avec ce qui se passe en moment en Algérie, ça montre qu'on est tous là et on est ensemble. Ça fait du bien. Et on pense à tous les Algériens qui sont en Algérie et on les représente ici en France.
Le groupe d'étudiants est finalement happé par la foule qui déferle sur l'avenue gonflée par des jeunes et par beaucoup de familles, comme celle d'Iliès par exemple. Il a encore les yeux rougis.
J'ai pleuré, ouais. Ils ont joué au cœur, ils ont joué pour le peuple. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Puis il regarde son fils, Morad.
C'est le match le plus excitant de toute ma vie.
Vous avez remarqué l'émotion, les larmes aux yeux qu'il a ? Très heureux.
Et si quelques gaz lacrymogènes ont été lancés par les forces de l'ordre pour disperser des attroupements, ils ont vite été balayés par le battement des drapeaux et le chant de la victoire.
Reportage RTL à Paris, Vincent Serrano, des sourires pour l'Algérie, bien sûr des grimaces pour le Sénégal battu après avoir dominé la rencontre hier soir, des Sénégalais qui n'ont jamais remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. L'actualité finalement, RAS, alors que l'affaire des dîners fastueux à l'Assemblée nationale l'ont poussé à quitter le gouvernement, François de Rugy, ancien ministre de la Transition écologique, est ce matin dédouané par l'enquête menée par les députés. Les fameux dîners au homard et au grand cru, dévoilés photos à l'appui par Mediapart, étaient tous d'ordre professionnel, Marie Mollet.
Oui, uniquement des dîners professionnels, c'est avéré. Voilà ce que dit une source proche de l'enquête interne au Palais Bourbon. Pas de réunion privée entre amis, comme le suggèrent les informations de Mediapart. Donc, rien de répréhensible dans ces agapes, quel que soit leur faste. Quant au fameux sèche-cheveux plaqué or, dont parlaient plusieurs articles de presse, que l'épouse, Séverine de Rugy, aurait acheté sur fonds publics. Eh bien, c'est faux, il n'est pas plaqué or, selon cette même source, et d'ailleurs, il est resté à l'hôtel de Lassay. Ces premiers éléments étaient la version de François de Rugy, qui a toujours clamé sa probité. Lui parlait de travail de représentation informel, certes, mais normal pour un président de l'Assemblée. François de Rugy, qui a réagi hier soir dans un tweet évasif, « Retour des faits, je parlerai le moment venu ». En tout cas, les investigations sont terminées, le rapport est en cours d'écriture. Publication mardi sur le site du Palais Bourbon.
Marie Mollet du service politique de RTL. Nadine Morano-Hell est ciblée par plusieurs ministres et de nombreux députés de La République En Marche qui s'indignent d'un message publié sur Twitter par l'eurodéputé LR. Elle s'en prend à la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Un tweet jugé raciste dans lequel Nadine Morano la qualifie de sénégalaise, très bien née et ayant obtenu la nationalité française il y a 3 ans. Visiblement, et je la cite toujours avec de grandes lacunes sur la culture française, Nadine Morano s'en prend aux inepties débitées souvent en tenue de cirque. Plusieurs ministres exigent des excuses, parlant d'un affligeant mélange de haine raciste et de violence gratuite. En bref, un homme tué par balle hier soir en pleine rue à Paris. Il était environ 21h dans un secteur plutôt calme du 10e arrondissement. L'auteur des coups de feu a pris la fuite après avoir abandonné son arme dans une poubelle. Le grand rush des départs en vacances, vous serez nombreux ce samedi à rejoindre les campagnes, les montagnes et surtout les plages. Bison futé voie rouge en ce 20 juillet. On vous informera des premières difficultés, bien sûr, notamment à venir sur l'autoroute A7 au sud de Lyon ou sur l'A10 en direction de Bordeaux. Ça va coincer, c'est certain. Soyez prudents et patients. Le bon temps est à l'arrivée. Tiens, si vous allez sur les plages, justement, vous croiserez peut-être les camions de l'établissement français du sang. Ils effectuent cet été une tournée dans les stations balnéaires pour collecter des dons indispensables. Il en faut chaque jour 10 000 pour assurer les besoins des malades. Aline Thibal, vous avez assisté à une étape à la Grande Motte dans l'Hérault, à deux pas de la Grande Bleuche.
Doigt de pied un éventail depuis la plage, Isabelle aperçoit le camion blanc et rouge du don du sang. Alors spontanément, elle vient donner et pas besoin de s'habiller.
Là, je suis en maillot, tongs, ça n'empêche rien. On a plus de temps pendant qu'on est en congé et donc c'est le moment de le faire.
Un petit break aussi pour Rodolphe dans un camion climatisé, dit-il, pour un geste solidaire, c'est pratique.
Ça prend quelques 20 minutes, une demi-heure et c'est réglé quoi. Donc c'est vrai que ça serait dommage de pas le faire. C'est toujours une bonne action pour les gens qui en ont besoin, donc c'est vrai que c'est pas une grosse contrainte. On boit un coca derrière et on repart se baigner.
Et essentiel aujourd'hui, explique Alexandra Luchet de l'EFS Occitanie.
On est très inquiets puisque la semaine de canicule fin juin a entraîné pas mal de prélèvements en moins, environ 20%. On risque d'avoir des stocks très fragiles. Nos donneurs habituels sont comme tout le monde en vacances. Du coup, c'est vrai qu'on s'adresse aux touristes et ce, durant tout l'été.
Et ces lieux de collecte sur les plages sont consultables sur le site internet de l'établissement français du sang.
Merci Aline Thibal, reportage RTL dans les Je vous parlais de la route il y a quelques instants. Vigilance obligatoire en cette période estivale. Vous le savez, RTL vous accompagne et vous conseille tous les week-ends avec M6 et la sécurité routière. L'occasion, Christophe Bourreau, une nouvelle fois de mettre en garde les automobilistes contre le fléau du téléphone au volant.
Oui, alors un texto, un appel et la vigilance n'est plus du tout la même. Il serait impliqué, ces textos, ces appels, dans un accident corporel sur 10. On estime que le simple fait de regarder un SMS par exemple, vous fait détourner les yeux de la route. Et là, attention, gros danger, prévient Anne Lavaux de la prévention routière.
On dit, mais c'est une moyenne, que regarder un SMS, c'est 5 secondes d'inattention et que ça augmente de 23 fois le risque d'avoir un accident.
Et il n'y a pas que les appels ou les textos qui peuvent d'ailleurs vous mettre en danger.
C'est aussi dangereux d'aller sur sa playlist pour chercher son morceau de musique favori que de lire un SMS. Conduire, c'est l'activité qui est intellectuellement la plus demandeuse. On doit gérer une action toutes les secondes. Et donc, à partir du moment où on est capté par autre chose, eh bien, ça veut dire qu'on détériore la qualité de sa conduite.
Et puis, attention, le gouvernement va bientôt muscler les sanctions. Si vous êtes au téléphone et que vous commettez une autre infraction, comme un excès de vitesse, vous risquerez le retrait de permis.
Christophe Bourreau, spécialiste automobile de RTL. En bref, la phase finale de Parcoursup s'est achevée hier et on apprend que 60 755 candidats sont toujours sans offre d'affectation. Plus de la moitié sont d'ailleurs des lycéens. Le gouvernement précise que c'est moins que l'année dernière à la même date et que la nouvelle plateforme d'accès à l'enseignement supérieur en place depuis maintenant 2 ans a généré moins de stress et que la procédure est allée plus vite. C'est la lune qui fait la une de la quasi-totalité de vos quotidiens régionaux ce samedi, car c'était il y a 50 ans que 600 millions de téléspectateurs suivaient un événement planétaire, les premiers pas de l'homme sur la lune, Neil Armstrong puis Buzz Aldrin, la mission Apollo 11, la grande victoire des États-Unis sur les Soviétiques en pleine guerre froide. C'était le 20 juillet 69 à 20h56 heure de Houston, 7 heures de plus à Paris. On fêtera l'événement évidemment ce soir, notamment outre-Atlantique. Cette date et cette mission figurent dans les livres d'histoire, même si aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup ne l'ont pas vécu en direct et ils l'avouent. Exemple avec Thomas Pesquet, notre héros de l'espace.
Ce qui est assez drôle, c'est que nous, on est la première génération qui est née après l'émission Apollo, en fait. Hein, quand je regarde autour de mes collègues en Europe ou même aux États-Unis, tout le monde a un souvenir de ça, même s'ils avaient 5 ou 6 ans. Ben, nous, on est la première génération qui n'a pas de souvenir de ça. Donc c'est assez drôle parce que quelque part, ça fait aussi un petit reset. Nous, on part d'une page blanche, c'est pas ça, mais on n'a pas ça dans le rétroviseur. Nous, moi, je suis vraiment né avec la navette dans les années 80, 90, station spatiale aujourd'hui. Et du coup, ben, tant mieux, peut-être on s'est un peu libéré de ça, peut-être on se dit, ben, voilà, il y a eu ce truc immense, on fera jamais aussi bien, et puis quoi qu'on puisse faire, ce sera pas comparable. Ben nous, on n'a pas connu ça, et du coup, peut-être on a l'esprit un peu plus tourné vers le futur. Normalement, ça, c'est vraiment dans ma génération, ma promotion, peut-être la prochaine qui va arriver en Europe, qui fera les premières missions vers la Lune, ouais, pour des Européens.
Voilà, confidence de Thomas Pesquet au micro RTL de Sophie Jousselin à 8h50 tout à l'heure. Nous revivrons ce moment historique. On parlera futur aussi avec Philippe Hénard et Jo, s'il est rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace.
RTL, Tour de France 2019.
Et s'il décrochait la Lune, le journal Le Parisien aujourd'hui en France raccroche l'actualité du jour au grand numéro de Julian Alaphilippe hier sur la grande boucle. Le Français s'est adjugé à la surprise générale le contre-la-montre, disputé à Pau, devant le favori, le Gallois Thomas. Du coup, Alaphilippe conserve son maillot jaune. Le rêve se prolonge. Il compte au classement général ce matin 1 minute et 26 secondes d'avance sur le vainqueur de l'an dernier. Le tout avant de s'attaquer aujourd'hui à l'impitoyable Tourmalet, 14e étape, 117 km. 500 et donc une arrivée à 2115 mètres d'altitude. Les temps forts, bien sûr, à vivre cet après-midi en direct sur RTL avec nos envoyés spéciaux. Emmanuel Macron sera sur place pour assister tout à l'heure au spectacle. Le président arrivé à Pau hier pour célébrer les 100 ans du maillot jaune. Il s'est offert un bain de foule de 20 minutes dans les rues paloises. Il a rencontré les légendes, Hino et Merckx, le tout dans la ville de son ami François Bayrou, Jean-Marc Terrier.
Sur ces terres paloises, François Bayrou explique à Emmanuel Macron qu'ici on n'aime pas tous les présidents, mais pour l'hôte de ce jour, l'éloge est clairement affirmé.
Nous aimons les présidents de la République qui veulent regarder leur pays les yeux dans les yeux. Nous aimons les présidents de la République qui aiment les Pyrénées. Nous aimons les présidents de la République courageux.
Pas l'ombre d'une dissonance, les guidons sont parfaitement alignés.
Merci à vous, cher François, parce que on aime ici la bravoure des grands rois qui sont passés. Et je crois que c'est dans l'âme de cette ville et de ce que vous portez.
Voilà un tandem qui fonctionne et qui alimente les commentaires.
On va peut-être lui redonner un poste de ministre.
Bah apparemment, ça a l'air de marcher. Apparemment.
En tout cas, aujourd'hui.
Oui, voilà.
Pour les municipales 2020, ce sera autre chose.
Ah, on va voir d'ici là ce qui va se passer.
C'est loin, l'étape est longue.
Très, très, très loin.
Une visite informelle avec des élus du département et un dîner en tête-à-tête avec François Bayrou à compléter cette étape du jour.
Jean-Marc Terrier à Pau pour RTL. En bref, à l'étranger, un regain de tension dans le Golfe. L'Iran dit avoir confisqué un pétrolier battant pavillon britannique, le tout dans le détroit d'Ormuz. Londres se dit ce matin très préoccupé et confirme avoir perdu le contact avec le navire qui fait route actuellement vers le nord, donc en direction du sol iranien. Un changement de décor pour El Chapo, le narcotrafiquant mexicain condamné à perpétuité mercredi aux États-Unis. Il a été transféré hier dans une prison haute sécurité du Colorado, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses et considérée comme la plus sûre du pays, donc les États-Unis. Enfin, rejoignons ce matin Hong Kong, où certains passionnés ne se refusent rien pour déclarer leur amour à Citroën. Ce sont les 100 ans, vous le savez, de la marque française. Il y aura d'ailleurs tout le week-end dans le Perche, à la Ferté-Vendôme, un grand rassemblement de véhicules Citroën et des Hongkongais feront le déplacement spécialement, car il faut le savoir, là-bas, on se retrouve tourne lorsqu'on voit passer une Citroën, alors qu'une Ferrari ou une Lamborghini, c'est presque banal. Rejoignons donc dans les rues de Hong Kong Philippe Dovard.
Fan de Citroën depuis l'enfance et propriétaire de l'une des très rares DS3 cabriolets, Kelvin Yu a fondé en 2014 le club DS Hong Kong.
Nous avons 300 membres et plus d'une centaine de véhicules.
Une centaine de voitures et des collectionneurs passionnés comme Michael Noronha, heureux propriétaire d'une C6, d'un C4 Picasso et d'une icône historique.
C'est la DS21 Safari de 1967. Lorsque vous conduisez cette voiture, tout le monde vous regarde, parce qu'il n'y en a qu'une à Hong Kong et peu de personnes connaissent Citroën, alors bien sûr ça les impressionne. C'est formidable, ça me donne le sourire chaque fois que je la conduis.
Pour rien au monde, Kelvin et Michael n'auraient manqué le rassemblement du centenaire de leur marque fétiche.
C'est très très important, nous devons y être et si nous avons de la chance, nous pourrons peut-être trouver et acheter ma voiture de rêve, la CX Prestige. Ce sera peut-être moins difficile pour moi que pour Kelvin, sa voiture de rêve c'est la Mi 6.
Une Mi 6 et une CX Prestige, mais avec le volant à droite, comme tous les véhicules en circulation dans l'ancienne colonie britannique.
Évidemment, merci Philippe Tova. Reportage RTL à Hong Kong ce matin. Et toute l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez sur notre site, premier site Radio de France, c'est rtl.fr. On a les bises ce matin de Anne-Marie, notre fidèle du Bourget, qui a 19 degrés. On l'embrasse évidemment. On salue Claudine. Coucou matinal aussi de Sophie, qui est ravie de nous retrouver. Pascal, lui, est en Vendée, à Vouvant. Il a gris actuellement et 17 degrés. On a le coucou de David, qui est à Foix. Il est boulanger. Il fait déjà très très chaud dans son magasin. Et puis, la chaleur aussi pour Eric, il est à Blanzy, il nous dit la chaleur c'est idéal pour écouter RTL, donc tout va bien.